Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cogitons Science, le podcast qui décrypte les enjeux des sciences. Je m'appelle Séverine Fontaine et je suis journaliste scientifique pour Technique de l'ingénieur. Aujourd'hui, on poursuit notre mini-série « L'intelligence artificielle s'invite dans nos métiers ». Et cette fois, on va s'intéresser à l'utilisation de l'IA de façon utile et raisonnée. C'est quoi au juste utiliser l'intelligence artificielle de façon utile et raisonnée? Ou encore, quels sont les éléments à prendre en compte lorsqu'on développe des solutions d'IA? Pour répondre à ces questions, nous accueillons Pierre Monger et Paul Errant. Pierre Monger est directeur de programme chez UpFrance IA. Paul Errant est le cofondateur de Radium et a développé un outil d'aide à la décision pour les radiologues. Alors ma première question sera pour vous, Pierre Monger. Que signifie utiliser l'intelligence artificielle de façon utile et raisonnée?
Il faut établir un petit peu une définition des deux termes, utile et raisonné. Si on commence par utile et comprend notamment la notion d'utilité, c'est avant tout de satisfaire un besoin qui rend service à une population d'utilisateurs donnés ou de manière plus large à la société. Maintenant, comment on qualifie d'utilité? Ça peut varier tout simplement d'une organisation à une autre. Si on parle d'entreprise, donc on peut avoir des nuances ou des degrés d'utilité qui sont pas forcément d'une définition commune ou du même degré d'intensité d'une personne à l'autre. Et donc si on se place dans le prisme d'une entreprise, eh bien déjà sur ce premier critère qui est l'utilité, il faudra très certainement définir les degrés d'utilité, donc les objectifs à définir que devront en fait remplir le modèle d'IA qui sera développé et qui sera utilisé. Quelques objectifs, ça peut être par exemple de faire un gain de temps. Si on veut gagner du temps pour réaliser telle tâche, eh bien ça peut être combien de temps effectivement qu'on souhaite gagner. En termes de précision, ça peut être aussi la précision de prédiction. Par exemple, ça peut être on veut prédire et augmenter la précision de prédiction de l'ordre de 15 à 20% sur le fait de prédire la future consommation d'électricité qu'on pourra avoir par exemple dans l'entreprise. Et ça peut être tout un tas d'autres objectifs. Sur le point de vue raisonné, raisonné ça peut être beaucoup de choses, mais on peut déjà dire un usage réfléchi, parce que dès l'expression de besoin côté métier et également tout au long de la conception, du développement et du déploiement de la solution IA par l'équipe projet IA, en fait on a fait une réflexion tout au long des différentes étapes du cycle de vie du modèle d'IA, et surtout on vise un usage non absurde, c'est-à-dire est-ce que c'est vraiment nécessaire d'avoir une solution d'IA pour remplir telle finalité? Est-ce que la finalité, elle est réellement utile? Est-ce qu'elle n'est pas absurde? Et est-ce que les moyens qu'on a mis en œuvre pour atteindre cette finalité sont également raisonnés? Si je parle de moyens, ça peut être des moyens, par exemple, non excessifs pour atteindre la finalité. On peut, par exemple, penser à la notion d'éthique. Eh bien, forcément, si on déploie une solution d'IA, c'est dans le respect de l'éthique. Il y a différents principes d'éthique qui existent, différentes définitions, mais il y a quand même des principes qui se recoupent. La bienveillance aussi, c'est un usage raisonné d'une solution d'IA. On peut faire une solution d'IA qui est très intéressante, mais qui peut être utilisée de manière malveillante. En cybersécurité, par exemple, on peut utiliser un modèle d'IA pour aider la direction du système d'information d'une entreprise à identifier les failles de sécurité de son système d'information et de les renforcer. Mais la même application qu'on met entre les mains de cyberattaquants, forcément, ne va pas être considérée comme raisonnée parce que va permettre de conduire potentiellement des actes malveillants pour trouver une faille dans l'entreprise, voire procéder à des vols de données de l'entreprise.
J'aimerais revenir sur l'utilisation de l'intelligence artificielle avec vous, Paul Errant. Vous avez développé un outil d'aide à la décision pour les radiologues, basé sur de l'intelligence artificielle générative. Pouvez-vous nous donner des détails sur cet outil et nous dire comment il fonctionne ?
Oui, alors tout à fait, Radium développe à la fois un modèle de fondation, c'est-à-dire un modèle qui a appris l'anatomie du corps humain, tête aux pieds, avec des connaissances médicales associées, donc l'anatomie normale, pathologique. Donc ça, c'est le modèle de fondation. Et ce qu'on veut développer en plus, c'est une interface, un outil que le radiologue utilise dans sa vie de tous les jours, qui s'appelle le viewer, tout simplement. Donc c'est un outil qui permet de voir les images en 3D. La radiologie, on la résume souvent à la radio, à la radiographie. En fait, la radiologie aujourd'hui, c'est une imagerie qui est très diverse. Donc, on peut passer du scanner à l'IRM, l'échographie, la radiographie, bien sûr. Mais en fait, il y a tout un panel d'images. Et donc, tout ce panel d'images se résume dans son analyse à cet outil, le viewer. On veut à la fois adresser la recherche clinique, par exemple pour les essais cliniques, où il y a besoin d'un viewer également pour les radiologues qui participent à ces essais. Et bien sûr, à terme, la pratique, où il est plus difficile et plus long d'amener à un changement. Si je prends un exemple qui concerne à la fois la recherche clinique Et à la pratique, on peut citer par exemple le suivi du cancer. C'est fait de façon non invasive, surtout par scanner. Il y a tout un ensemble de critères qui permettent, suivant les pathologies et les traitements, de suivre ces patients. Principalement, ça consiste à mesurer la taille des tumeurs dans le temps. Et aujourd'hui, cette taille de tumeur, c'est ce qu'on appelle un biomarqueur. Il y a plusieurs façons de le faire, mais aujourd'hui, c'est encore un processus qui est très manuel. Et donc, il y a un vrai problème dans cette mesure, du fait qu'elle soit manuelle, c'est qu'elle soit sujette à beaucoup de variabilité inter-observateur. Donc, on a jusqu'à 30% de variabilité, par exemple. Et nous, ce qu'on pense, c'est qu'une des premières applications concrètes de notre technologie, c'est qu'elle puisse mesurer de façon beaucoup plus fiable des anomalies dans les images, donc par exemple les lésions, et donc on les rendre plus fiables dans le temps. Donc ça, c'est ce qu'on peut faire avec des modèles de segmentation. La segmentation, c'est le fait de délimiter une lésion dans une image. Ça consiste à vraiment délimiter en fait la sémantique visuelle. Je délimite une tumeur dans son espace, et par exemple l'organe dans lequel elle est, etc. Et donc toute cette tâche de segmentation, c'est quelque chose assez mature maintenant en machine learning, et il y avait des problèmes, ils étaient cantonnés jusque-là à quelques organes, et les nouvelles technologies basées sur les modèles de fondation permettent d'adresser ce problème de façon plus globale au niveau du corps humain entier, ce qui est justement très pertinent pour le suivi du cancer, car ce sont des pathologies qui sont par exemple multimétastatiques, qui sont du coup à suivre sur plusieurs organes. Donc ça nous permet vraiment d'adresser le patient dans son ensemble et dans le temps.
Donc si je comprends bien, votre outil permettrait ainsi de réduire les erreurs médicales.
Alors oui, ça c'est un autre cas d'usage. Donc l'erreur médicale, c'est une réalité. C'est lié à plein de facteurs. Il y a jusqu'à 15% d'erreurs dans les comptes rendus radiologiques quand on relie un pool aléatoire de comptes rendus. Alors 15% d'erreurs, ça peut paraître beaucoup. Heureusement, ces erreurs, elles sont pas toutes graves. Donc ça peut être des fois un défaut lié à l'outil. Hein. Ça peut être par exemple un outil de conversion du texte à partir de la voix qui bug, tout simplement. Donc il y a des algorithmes de ce qu'on appelle speech to text qui sont déjà une réalité depuis assez longtemps en radiologie et qui sont assez imparfaits et qui amènent à des erreurs de traduction du message qu'a voulu transmettre le radiologue. Des erreurs qui sont plus cognitives, c'est-à-dire quand on a beaucoup d'images à traiter, on peut avoir ce qu'on appelle des biais cognitifs de type cécité inattentionnelle, par exemple. On ne voit pas ce qu'il faut voir, d'autant plus que, par exemple, une anomalie est rare. Et là, par exemple, les algorithmes peuvent aider à lutter contre ces biais cognitifs ou mieux traduire ce qui est perçu, justement. Je cite que ces deux exemples, mais en fait, il y a tout un panel d'erreurs qu'on pourrait compenser. Et donc, on pourrait rendre plus sécurisé, finalement, l'interprétation radiologique, puisque ça peut vraiment avoir des conséquences. Hein. Un cancer qu'on loupe à un moment et qu'on revoit 2 ans plus tard, par exemple, et qui est trop avancé, ça peut avoir des conséquences de perte de chance, hein, pour un patient. Par exemple, un patient qui était opérable et qui ne l'est plus. Ça, c'est des choses qu'on peut éviter grâce à ces technologies. Donc, je pense que c'est un levier d'action qu'il faut promouvoir. Le problème, quand on mentionne ça, par exemple, le dépistage, c'est encore quelque chose qui est insuffisamment valorisé dans la médecine. Alors, bien sûr, il y a des initiatives qui sont là, mais on va dire que c'est difficile, par exemple, pour des sociétés de promouvoir des modèles diagnostiques purs, parce qu'il n'y a pas encore la valorisation des systèmes derrière.
Votre solution a pour objectif d'améliorer le travail du radiologue, mais pourrait-elle également démocratiser l'expertise radiologique ?
L'expertise radiologique, c'est une expertise qui est rare. C'est-à-dire que pour former un radiologue, c'est 11 ans plus souvent un clinicat de 2 ans en France, par exemple, donc c'est assez long. Et quand on a des surspécialités, parce qu'il y a un rapport au savoir qui, le savoir est exponentiel, donc il y a toujours plus de choses à savoir. Quand on dit démocratiser la radiologie, dans nos termes, c'est plutôt rendre accessible une connaissance toujours plus vaste. Donc, c'est-à-dire qu'on peut potentiellement couvrir des sujets qui étaient jusque-là cantonnés à des expertises limitées. Et peut-être que c'est dommage parce que, justement, il y a des bénéfices à avoir des sujets adressables pour plus de médecins. Donc ça, c'est dans ce sens-là. C'est plutôt le rendre capable de traiter beaucoup plus de pathologies, par exemple, dans les connaissances qu'il a, avec des outils qui sont, on va dire, nativement porteurs d'une connaissance. Donc c'est un peu comme ça qu'on penserait la chose. Là où l'expertise est rare, elle est un peu compliquée à accéder, notamment par exemple, pour des essais cliniques. Il faut mobiliser des radiologues pour analyser les images et évaluer la réponse au traitement. Pareil, c'est une ressource qui est limitée et on peut peut-être faciliter le traitement et les essais cliniques avec des radiologues qui ont des outils qui les rendent plus efficaces et qui leur permettent de mesurer beaucoup plus que ce qu'ils mesurent actuellement. Donc c'est aussi une autre façon de rendre accessible le radiologue et l'expertise radiologique à plus d'acteurs.
Mais en rendant l'expertise radiologique accessible à plus d'acteurs, est-ce que votre outil ne risque pas de remplacer le radiologue ?
Alors, on me la pose souvent cette question. Moi-même étant radiologue, j'ai pas envie de me remplacer moi-même déjà. C'est plutôt un nouveau rapport à cette technologie qu'il faut avoir. Donc, en fait, ce remplacement du radiologue, il vient notamment des pontes du machine learning. Geoffrey Hinton disait en 2016, les radiologues vont disparaître parce que l'IA va finalement les remplacer, donc il faut arrêter de former les radiologues. La position de 2016, qui a eu un énorme impact, mine de rien. Il y a eu beaucoup de startups qui pensaient, avec une logique disruptive, pouvoir justement remplacer le médecin. Dans les faits, ça s'est pas passé comme prévu. La médecine, c'est compliqué. La radiologie, c'est compliqué. C'est un domaine expert. Alors, il y a eu des papiers qui montraient, et tant mieux, que la perception algorithmique peut égaler, voire même surpasser l'humain. Mais on ne résume pas le radiologue à une perception dans une image. Il y a des décisions médicales qui en découlent. Les algorithmes, en plus, sont des défauts. Ils ont des biais algorithmiques. Par exemple, il y a beaucoup de faux positifs dans ces modèles. Donc, il faut pouvoir les gérer. Et en fait, finalement, ce qu'on a appris de cette première vague d'IA, c'est qu'il faut peut-être repenser même le rapport à l'intelligence artificielle. Donc, par exemple, il y a des papiers plus récents qui ont montré qu'on pouvait avoir une synergie homme-machine. Donc, le fait de combiner humain et algorithme, ça peut montrer des performances plus performantes, justement. Et puis, bien sûr, tout simplement, en fait, il y a peut-être quelques cas d'usage qui sont automatisables. Peut-être tant mieux, parce que, en fait, le radiologue a une charge de travail qui est très forte. Mais par contre, il y a peut-être aussi des choses qui sont pas forcément automatisables, mais qui sont facilitées avec des outils comme ça. Donc, c'est un outil d'aide. Certains parlent de copilote. C'est peut-être un positionnement qui est plus intéressant, je pense, notamment pour l'adoption des algorithmes. Aujourd'hui, la radiologie, c'est un peu une discipline pionnière dans ce genre-là. Et on peut voir que, justement, l'adoption commence à arriver. Et la peur qui était légitime au début s'atténue. Et puis aussi, on parle d'intelligence artificielle. Je pense qu'il faut être humble par rapport à ce que font vraiment ces algorithmes. Donc, pour la plupart, c'est juste des modèles de vision. Et c'est plutôt de la perception artificielle que de l'intelligence. Le débat est encore ouvert avec des modèles de fondation, notamment les plus gros d'entre eux, où il y a des propriétés émergentes qui peuvent s'apparenter à des propriétés cognitives. Mais on en est encore loin d'un usage, on va dire, concret et compétitif avec le médecin. Même si, bien sûr, il y a des papiers récents qui prouvent que c'est peut-être la nouvelle vague qui arrive. Je pense notamment à des papiers de Google qui montrent que, par exemple, pour des tâches de diagnostic, il y a des larges langages modèles qui dépassent des performances de médecins avec des algorithmes. Donc ça, c'est encore un champ très récent de preuve, donc affaire à suivre.
Pour nos auditeurs et auditrices qui se questionnent sur leur propre utilisation de l'IA, Pierre Monger, que faut-il prendre en compte lorsqu'on souhaite développer des solutions ?
Comme je disais, il faut prendre en considération tout le cycle de vie d'un modèle d'IA, de l'expression de besoin par le métier, c'est vraiment le client en interne ou le client vis-à-vis d'un fournisseur d'une solution d'IA. Donc le métier déjà a sa responsabilité, c'est pas uniquement la responsabilité de l'équipe projet technique, c'est aussi la responsabilité du métier de pouvoir exprimer un besoin qui va tendre vers un usage raisonné et utile. Durant l'entraînement aussi, il y a tout un tas d'éléments nécessaires et importants et critiques dans la phase d'entraînement d'un modèle sur les différents aspects que j'ai cités précédemment. À l'utilisation, donc la phase d'inférence, post-déploiement du modèle IA, parce que les utilisateurs finaux ont aussi une certaine responsabilité dans l'usage raisonné et utile dans une moindre mesure parce que la solution répond déjà à une finalité, mais en tout cas dans l'usage raisonné, ils ont un rôle à jouer. On peut également penser à l'impact environnemental de la solution d'IA, pas que durant sa phase d'entraînement, mais tout au long de son cycle de vie. Également, au-delà de l'impact environnemental, eh bien, c'est de développer et de mettre en œuvre un modèle d'IA qui respecte les principes éthiques, la réglementation, les données utilisées également, que ce soit pour la partie entraînement, sur quelles données on va entraîner le modèle d'IA, est-ce que ces données sont sensibles, est-ce qu'elles sont personnelles, est-ce qu'on a vraiment le droit d'accéder à ces données équipe projet ou entreprise fournisseur de cette solution d'IA, et tout cela afin de répondre à un besoin réel et rendant service à des utilisateurs, donc encore une fois des personnes, des organisations.
Pour rebondir sur la question des données, comment Raydium entraîne-t-elle ses algorithmes ?
On a la chance d'avoir une donnée massive qui représente un panel de pathologies très diverses, qui peut aller de la neurologie, sclérose en plaques, tumeur du cerveau, métastase, suivi oncologique justement dont on mentionnait, mais aussi des pathologies comme la NASH, la pathologie liée à au foie qui devient gras en raison de l'obésité, du diabète notamment, ou encore des pathologies cardiaques, par exemple, pathologies cardiovasculaires, qui sont des pathologies très fréquentes, très couramment traitées dans les services d'imagerie. Et donc nous, on a quelque chose d'assez agnostique à la pathologie de base, c'est-à-dire qu'on peut adresser plein de sujets. Alors par contre, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas priorisé des sujets, justement. Donc on a priorisé notamment le cancer et la NASH. Et donc, on a la chance d'avoir un partenaire de confiance qui nous facilite l'accès à la donnée pour entraîner nos modèles. Donc, c'est le Centre d'imagerie du Nord qui est à Saint-Denis. C'est fort que c'est un centre d'imagerie qui a une culture d'innovation forte, historique. C'est un acteur qui est privé, c'est une clinique, mais qui a été pionnier dans plusieurs modalités d'imagerie. Par exemple, c'est un des premiers centres français et européens à avoir implémenté le scanner cardiaque, comme ce qu'on appelle le coroscanner, qui permet de dépister avant l'infarctus des pathologies coronariennes. Et donc, cette culture d'innovation, elle se translate au-delà des machines, justement avec ce partenariat de recherche pour développer le modèle de fondation. Savoir que l'accès à la donnée, c'est quelque chose de très compliqué, peut-être encore plus en France, surtout quand c'est massif. Et donc, il faut qu'on change notre rapport à cette donnée. Aujourd'hui, les algorithmes sont très gourmands en données, et du coup, il faut pouvoir faciliter ça. Il y a un enjeu pour pouvoir développer des solutions qui sont beaucoup plus efficaces que celles qui existent actuellement.
Et justement, pour répondre à ces différents enjeux, quels sont les conseils que vous pourriez donner aux auditeurs et auditrices qui souhaitent se lancer dans le développement d'outils d'intelligence artificielle?
Quand on va être dans la phase conception, alors il y a les personnes et les organisations telles que les entreprises, je me place d'abord dans la partie équipe-projet qui va donc avoir la responsabilité de concevoir, entraîner et déployer le modèle d'IA. Donc si on est côté équipe-projet, bah tout d'abord, le premier sur la liste qui a une responsabilité et qui doit se poser les questions, c'est le métier. Le métier qui va exprimer son besoin, comme on l'a vu précédemment, est-ce que le besoin que je vais exprimer et la finalité que je vise, est-ce qu'elle est vraiment utile? Si oui, est-ce que les moyens que je vais envisager, que ce soit développement interne ou faire appel à un prestataire, mais ça c'est aussi la question que va se poser l'équipe projet, est-ce que les moyens que je vais envisager, que je vais mettre en œuvre pour atteindre la finalité qui donc est égale à mon besoin, sont-ils raisonnés et ne sont-ils pas disproportionnés? Bien sûr, à chaque fois, si on a un doute, il faut creuser, il faut explorer, il faut toujours tendre vers la partie utilité et usage raisonné. Autre question qu'on peut se poser, toujours en termes de plutôt en position client, est-ce que je suis prêt en tant que client à préférer un modèle d'IA plus léger, avec donc une empreinte environnementale plus faible qu'un autre modèle, au prix d'une précision moindre? C'est-à-dire, imaginons, je veux un taux de détection sur un convoyeur de recyclage en centre de déchets. Je veux un taux de détection de 98% sur les déchets PET pour pouvoir les orienter dans la bonne filière de recyclage. Est-ce que un taux de détection de 3 points de moins, c'est-à-dire 95%, est-ce que c'est acceptable au profit d'un modèle qui propose ça avec une empreinte environnementale 10 fois plus faible? Donc là, la question à se poser, peut-être par rapport à cette notion de précision, on peut aussi parler de gain de temps, de dire est-ce que je suis prêt, au lieu de gagner 15 minutes, de gagner que 13 minutes parce que j'ai un modèle plus léger, donc moins puissant, mais qui présente des performances un petit peu en dessous. Donc là, la question à se poser, c'est peut-être est-ce que je suis vraiment dans une activité critique? Si on doit avoir une précision très élevée parce que je suis dans une activité, par exemple, de recherche ou une activité critique dans le secteur énergétique comme le nucléaire, forcément, on va viser un niveau de précision très élevé et l'aspect frugalité des modèles va peut-être être en priorité 2. Par contre, si je suis dans une activité tertiaire ou si je suis dans une activité triviale comme utilisateur d'une application sur un smartphone, bah oui, je suis peut-être prêt à perdre quelques points de précision au profit d'un modèle plus léger avec un impact environnemental plus faible. En complément, on va peut-être aussi parler de l'essor de l'IA générative. Donc fin novembre 2022, OpenAI qui sort sa bêta test de ChatGPT. En quelques jours, ils atteignent le stade de 5 millions. Maintenant, c'est plus de 100 millions d'utilisateurs mensuels. Donc il y a vraiment une utilisation massive de ChatGPT sur les autres modèles d'IA générative, sur les LLM, donc les Large Language Models, ou d'autres solutions d'IA générative, pas de texte mais d'images, comme Stable Diffusion par exemple, ou Midjourney. Voilà, créer des images à gogo et faire l'apprenti sorcier. Et déjà en tant que moi citoyen, parce que c'est pas uniquement des personnes d'entreprise, ça peut être des personnes dans un cadre personnel, en tant que citoyen j'ai déjà un rôle à jouer. Si on parle de ChatGPT, le coût d'entraînement de ChatGPT, si on parle vraiment de GPT 3 ou 4, a été monstrueux, mais il y a une telle utilisation massive, encore une fois 100 millions d'utilisateurs mensuels qui potentiellement tous les jours font une, deux, trois, voire plus de prompts auprès de ChatGPT, le coût de la requête est très faible. Mais multiplié par la masse énorme d'utilisateurs, le coût de l'inférence déjà sur le cycle de vie de ChatGPT est déjà en train de passer le coût environnemental de l'entraînement. Donc ça veut dire que moi, à mon petit niveau, je ne vais pas, encore une fois, faire une grosse différence, mais sur l'ensemble des utilisateurs, si en tant que citoyen, on veut se poser la question, est-ce que j'ai vraiment besoin de faire une requête auprès de tel modèle d'IA générative pour créer une image? Est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que je suis pas plus un peu dans le jeu, dans la partie trivialité? Est-ce que je peux m'en passer? Voilà, c'est des questions qu'on peut se poser. Si je prends l'exemple de ChatGPT, ça coûtera toujours un peu plus cher en termes environnementaux de poser une question à un agent conversationnel qui se base sur les LLM comme ChatGPT. Pour avoir une réponse, parce qu'il va interpréter en langage naturel, il va chercher dans son corpus documentaire ses données d'entraînement, ça coûtera toujours un peu plus en termes environnementaux qu'il apporte une réponse, plutôt qu'une simple recherche dans un moteur de recherche. Il y aura aussi un impact environnemental, bien sûr, mais ça sera moins élevé qu'en passant par un modèle d'IA générative, et notamment un LLM. À l'inverse, je repasse côté équipe projet. Si le modèle, dès le début, on sait que le modèle d'IA est prévu pour un usage massif tout au long de l'année, je prends un exemple, je suis une PME, je veux développer ou faire développer un modèle d'IA pour ma PME, bah c'est peut-être 250 personnes maximum. Maintenant, je suis un grand groupe du CAC 40. J'ai des dizaines, voire des centaines de milliers de collaborateurs à travers le monde. Je sais qu'in fine, je veux déployer mon modèle d'IA massivement auprès de tous mes collaborateurs dans le monde. Et donc, je sais que la partie inférence va avoir un impact très, très fort. Et bien là, même si ça peut être contre-intuitif, on peut se poser la question, est-ce que ça ne vaut pas le coût d'investir un peu plus de temps, de conception, de développement sur la phase d'entraînement, quitte à booster et à grossir un petit peu l'empreinte environnementale côté entraînement? Parce qu'on sait qu'on va permettre de développer et de déployer une solution beaucoup plus faible sur l'empreinte carbone, sur l'empreinte environnementale, parce qu'on a pris conscience du projet, on s'est projeté sur tout le cycle de vie du projet, et on a vu que l'inférence aura un impact beaucoup plus fort que l'entraînement, et donc la priorité absolue, c'est de mettre en œuvre pendant l'entraînement, quitte à y passer plus de temps, de mettre en œuvre tout ce qui est nécessaire pour déployer et mettre entre les mains des utilisateurs durant l'inférence un modèle le plus léger possible avec un impact le plus faible, parce qu'on sait qu'il va y avoir des millions de requêtes tout au long de l'année. Vient également aussi en autre considération qu'on peut se poser en tant qu'utilisateur. Encore une fois, là, je me place du côté de l'entreprise, en tout cas relation je fais développer ou je fais développer en interne ou en externe, ou je développe moi-même. Bah, déjà, c'est de bien sélectionner les données. Toujours bien sélectionner les données en respect du RGPD, en respect de l'ACT sur l'usage et le niveau de risque. Et par exemple, un cas d'usage qui peut être le fait de connaître les collaborateurs qui n'ont pas bénéficié de progression professionnelle depuis X années. Pour faire ça, on dispose des données parce que ce sont nos collaborateurs référencés dans le système SIRH. On a les données, mais est-ce que c'est vraiment nécessaire de passer 100% des données autour de la fiche de renseignement de l'employé comme l'adresse domicile ou l'âge pour vraiment connaître depuis combien d'années il n'a pas bénéficié de progression de carrière? C'est pas parce qu'on dispose des données que les données sont internes dans l'entreprise qu'il faut forcément mettre à disposition 100% des données dans le modèle d'IA qui sera entraîné en interne, qui plus est encore plus en externe avec la problématique de confidentialité encore plus présente auprès d'un prestataire. Il faut vraiment dès le début se poser les bonnes questions là-dessus. Je reviens du côté utilisateur. Les données que je vais mettre en entrée d'un modèle d'IA durant la phase d'inférence, donc durant l'utilisation, reprenons le cas d'un modèle d'IA générative. Je vais faire une requête auprès de ChatGPT. Je me passionne pour développer une application mobile et j'ai l'idée potentiellement de mettre mon application mobile plus tard sur les stores, voire potentiellement de la monétiser. Et j'ai un problème pour écrire du code ou j'ai un problème pour débugger du code. Eh bien, prenons l'exemple du debugging. Je vais donc copier une section de mon code source que je suis en train de développer en entrée de ChatGPT dans le prompt pour ensuite avoir un retour sur le debugging. Ben là, la question que je me pose, c'est est-ce que ces données que j'ai mises en entrée, certes, ChatGPT me répond, mais où est-ce qu'elles vont être stockées? Si elles sont stockées en Europe ou aux États-Unis, est-ce que l'utilisation derrière de OpenAI, qui est l'éditeur, va en être la même ou pas? Est-ce que je suis encore propriétaire de ces données? Est-ce que j'ai pas un problème de propriété intellectuelle? C'est vraiment la question qu'il faut se poser. Encore plus, dans le domaine de l'entreprise, si on met des données sensibles en entrée d'un modèle d'IA générative, dans le prompt d'un LLM, où est-ce que ces données partent? C'est quand même des données sensibles d'entreprise, des données confidentielles. Donc ça, c'est vraiment aussi la typologie de questions à se poser. Au-delà des données, il y a aussi comment s'assurer que le modèle IA respectue la réglementation actuelle. Donc là, c'est assez simple jusqu'ici parce qu'il n'y avait pas réellement de réglementation. L'ACT a été finalisé et validé en décembre. Il y aura encore un gros travail de mise en application et un délai d'application qui va être octroyé aux différentes entreprises, utilisatrices ou fournisseurs de solutions IA. Mais vraiment, comment je vais mettre en compétence compliance avec ce règlement européen, mais aussi pouvoir, et là ça va être difficile, anticiper les futures évolutions de l'Act ou les futures réglementations qui pourraient arriver. Alors, on peut pas être devin, mais en prenant ce qu'il y a dans l'Act, on voit la classification des systèmes d'intelligence artificielle par différentes catégories. Ça permet déjà d'anticiper un peu et de connaître un peu la tendance qui est prise sur différents sujets. Et en plus de ça, on peut aussi faire de la veille réglementaire à notre petit niveau ou encore plus au niveau d'une entreprise ou d'un éditeur si on a des fonctions des départements juridiques pour anticiper aussi ce qui peut se passer aux États-Unis. Parce que forcément, si j'ai vocation en tant qu'entreprise fournisseur de solutions IA à venir m'étendre à l'international et commercialiser mes solutions aux États-Unis, bah, il faut que je prenne aussi la réglementation locale. Tout comme les États-Unis, s'ils poussent des solutions sur le territoire européen pour les commercialiser, bah, maintenant ils vont tomber sous le coup de l'AI Act. Autre sujet, je suis une entreprise, je souhaite développer un modèle d'IA pour répondre à un besoin que j'ai. En tout cas, je sais que je pars sur cette dynamique. Je n'ai pas d'équipe de développement en interne, ou en tout cas, j'ai peut-être pas d'expert en IA, de data scientist en interne, et donc je fais appel à un fournisseur. Et la question, c'est qu'une fois que le fournisseur a développé, entraîné le modèle d'IA, qu'il a déployé soit sur le cloud en ligne ou soit sur mes serveurs en entreprise, la question de la propriété intellectuelle va se poser. Et il ne faut pas qu'on se la pose à la fin, c'est dès le contrat de prestation, dès le contrat de mission pour venir développer le modèle d'IA, c'est dès le début qu'on doit se poser la question, une fois que le modèle d'IA est développé, qui a la propriété intellectuelle ? Est-ce que c'est le fournisseur ? Est-ce que c'est le client, donc mon entreprise ? Si oui, sur quel périmètre ? Et comment, si j'ai la propriété intellectuelle, comment j'ai la réversibilité, c'est-à-dire comment le fournisseur va me redonner accès au code source que lui, il a développé. Donc tout ça, c'est des questions qu'il faut vraiment se poser au début. Si on se les pose à la fin, c'est pas que c'est trop tard, mais ça devient très compliqué à rattraper le coup, ou ça peut aussi poser des conflits avec les différents partenaires qui nous accompagnent sur le sujet. Et également, pour terminer, on peut aussi recommander aux entreprises, en tout cas aux organisations, eh bien de définir une charte d'usage des solutions d'IA, intelligence artificielle, encore plus intelligence artificielle générative avec leur essor dernièrement, afin de définir quels sont les usages qui sont autorisés. Donc en fait, les collaborateurs, les salariés d'une structure, quels sont les usages qu'ils peuvent faire de telle et telle solution, de type de solution, quels sont les usages qui sont par exemple proscrits, et surtout les bonnes pratiques d'encadrement associées pour l'usage des solutions d'IA au sein d'une structure. On peut prendre l'exemple de ce qui est arrivé côté Samsung, où des ingénieurs Samsung ont mis en entrée de ChatGPT du code source d'un des produits de Samsung pour faire du debugging. Et en fait, les ingénieurs ont été licenciés parce que c'est une information sensible qui est partie côté ChatGPT et donc potentiellement accessible par OpenAI et directement aux États-Unis.
Merci à tous les deux pour votre éclairage. J'ai une toute dernière question pour conclure et permettre à nos auditeurs et auditrices d'approfondir le sujet. Est-ce que vous auriez des lectures à leur conseiller ?
Déjà, pour se former au machine learning, il y a des MOOC. Il y avait le MOOC de Stanford qui est devenu maintenant deeplearning.ai, qui est très bien fait pour se former. Ensuite, il y a des livres plus de vulgarisation de l'intelligence artificielle. Donc, je pense que le livre The AI Revolution Medicine, GPT-4 and Beyond, de Peter Lee, Carey Goldberg et Isaac Cohen, qui traite justement ces nouveaux paradigmes liés au modèle de fondation.
Moi, j'ai un livre que j'ai lu il y a quelques années, mais qui m'a encore marqué et qui est encore très d'actualité, qui s'appelle Innovation Jugad. En fait, Jugad, c'est un terme indien. La traduction qui peut être faite, c'est tout simplement en innovation frugale. Les auteurs, il y en a trois, Navi Raju, Jaideep Prabhu et Simon Ahuja. Et l'idée, c'est innover avec peu de moyens et potentiellement dans un environnement hostile. Moi, la frugalité, c'est un sujet qui me tient à cœur. Ça s'applique très bien aussi sur la frugalité des modèles d'IA. Je pense que c'est un livre qui est très intéressant, qui connecte à la fois l'objet, le thème de ce podcast et qui ouvre un peu plus sur l'innovation au travers les différents domaines d'ingénierie qui sont représentés par les techniques de l'ingénieur.
Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode de Cogitons Science, le podcast qui décrypte les enjeux des sciences. Un grand merci également à nos invités, Pierre Monger et Paul Errand. Vous retrouverez toutes les ressources citées dans la description de cet épisode ou sur la page web du magazine d'actualité de Technique de l'Ingénieur. Cogitons Science est un podcast produit par Technique de l'Ingénieur. Cet épisode a été réalisé en collaboration avec Marie-Caroline Lauriquet. Et pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous dès maintenant sur votre plateforme d'écoute préférée. Pour ma part, je vous donne rendez-vous en avril avec le 3e épisode pour terminer notre mini-série « L'intelligence artificielle s'invite dans nos métiers ». À bientôt !